Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
Nous sommes avec l'institution de l'Église par le Christ, donc on voit que c'est une institution divine, hein. On ne peut pas toucher à ce que Jésus a fait lui-même. Et il semble que cette structure des origines est appelée, selon le numéro 765, à demeurer jusqu'au plein achèvement du royaume. Est-ce que cette structure continue d'exister aujourd'hui ?
Oui, c'est ça qui est une des raisons de la crédibilité de l'Église, c'est sa continuité. Combien d'empires qui semblaient invulnérables, regardez l'Empire romain par exemple, en 750 ans avant le Christ avait commencé, et il s'est achevé au 5e siècle avec Romulus Augustule à Rome. Eh bien, pendant tous ces siècles, on a cru vraiment que l'Empire romain était indéboulonnable, comme les empires en Chine ou ailleurs. On croit que tout va tenir, mais un jour ou l'autre, ça s'écroule. Or, l'Église tient bon. Et de fait, elle est quand même un témoignage de crédibilité à cause de cela, au-delà de toutes les crises, de toutes les avanies par où, les choses peuvent advenir. La bannière de l'Église continue à bien flotter dans le ciel. Et comme disait avec humour un jour Jacques Maritain, il disait « la bannière reste de l'auberge reste toujours la même ». Évidemment, le personnel en dessous, l'aubergiste, et les personnes qui rentrent dans l'auberge peuvent changer et avoir plus ou moins de qualité. Mais la bannière demeure. Et d'une certaine manière, l'Église connaît cette situation, puisque le personnel de l'Église, comme disait avec humour aussi Jacques Maritain pour parler de toute la hiérarchie, peut être plus ou moins saint, plus ou moins apte à répondre aux soucis des personnes avec lesquelles il vit. Mais cette situation montre qu'il y a beaucoup d'imperfections dans les membres de l'Église, mais l'Église, elle, demeure une sainte catholique et apostolique. C'est assez extraordinaire. Apostolique parce que fondée par les apôtres, envoyée par le Christ, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, avait dit Jésus le jour de sa résurrection. Donc il y a une mission divine qui se prolonge. Elle est catholique dans le sens qu'elle est universelle, elle s'adresse à tous les hommes. La famille de Dieu cherche à être la famille universelle de tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui veulent bien recevoir le baptême par lequel on est sauvé, comme dit la finale de l'évangile de saint Marc. Et puis, elle est sainte de la sainteté même de Dieu, puisque, Dieu nous l'avait dit, « Soyez saints comme le Père Céleste est saint ». Et l'Évangile a repris déjà ce texte du Lévitique, l'appel à la sainteté, comme le demandait déjà la première alliance. Et puis, elle est une. Alors, vous me direz, on voit beaucoup de divisions dans l'Église. C'est vrai, mais il y a quand même cette unité depuis la succession des apôtres, depuis Pierre et ses successeurs, saint Irénée par exemple, pour montrer que toutes les autres factions n'ont pas de contenu, disent nous avons la succession apostolique.
À ce propos, donc Pierre semble avoir eu une autorité particulière de Jésus. Donc il y a l'institution des douze, mais en plus Jésus parle d'un chef de ces douze qui est Pierre. Est-ce qu'il y a des signes de ça dans l'Évangile ?
Oui, il y a au moins trois endroits absolument indispensables à connaître quand on est catholique et même, quand on est chrétien. C'est le premier moment en Matthieu chapitre 16, verset 16, lorsque Jésus demande quelle est l'identité, son identité aux yeux des gens, et certains disent c'est un prophète, ou d'autres appellations qui circulaient à son propos, et puis finalement Jésus les pousse dans leur retranchement, c'est à Césarée de Philippe, tout au nord de la Galilée, et il les pousse, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien Pierre a une inspiration, ça ne vient pas de lui-même, Ça vient de Dieu le Père lui-même qui le pousse à dire « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Et aussitôt, Jésus le confirme. Ce n'est pas de toi-même que tu as dit cela, c'est de mon Père que tu, par lequel tu as parlé. Et donc cette confirmation que Jésus donne à Pierre se prolonge en disant « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Matthieu 16, 16. Voilà donc le premier endroit, mais il y en a deux autres, un juste avant la Passion, et un, je dirais, juste après la Passion, comme si, pour bien montrer qu'il y a la continuité, parce qu'on sait très bien que Pierre, dans sa faiblesse, a failli, il a renié le Christ, et on pourrait se dire, est-ce que ce que Jésus a dit avant sa Passion reste encore valable, de par le fait que la première pierre qu'il a choisie, ce Képhas, eh bien, a pu faillir, et donc du coup, ça pourrait légitimer des doutes sur l'action de Jésus et la force de sa parole en disant, ben oui, mais Jésus avait dit des prophéties, mais elles ne se sont pas entièrement réalisées puisque Pierre a failli. Eh bien, il y a deux autres passages qui montrent la continuité de cette première parole de Matthieu 16, 16. C'est Luc 22, 31, 32. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment. » Et donc, ça montre bien que Pierre va être éprouvé, il va être tenté, il va même chuter. Mais aussitôt, Jésus ajoute, « Mais moi, j'ai prié pour toi, 22, 32, afin que ta foi ne défaille pas. » Il peut y avoir eu une faiblesse morale, mais la foi ne demeure. La foi demeure. « Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Voilà un ordre de Jésus, non seulement « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », mais « affermis tes frères », voilà la deuxième mention qui montre un rôle spécial de Pierre. Et puis, alors il y en a un troisième qui saute aux yeux de tous ceux qui lisent la Bible, surtout en période, je dirais, de Pascal, puisqu'il y a toujours la commémoration de tous les textes de résurrection. Eh bien, il y a cette rencontre de Jésus sur le lac de Galilée, après la pêche, une nouvelle pêche miraculeuse, et le fait que Jésus leur donne à manger, ayant préparé du pain et du poisson sur le bord du lac, eh bien, après ces retrouvailles, en quelque sorte, des apôtres qui étaient là, des 7-8 apôtres qui étaient là avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il pose un certain nombre de faits et de questions. Les questions, c'est adressées directement à Simon Pierre, Simon fils de Jean. Par trois fois, Jésus lui demande si Simon fils de Pierre l'aime. Et je vous rappelle cette parole, que quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Alors attention, c'est le verbe « paître hein, », c'est pas « P-A-X ». Moi, je me souviens plusieurs fois, quand j'étais petit, que j'entendais ce texte, je pensais aussitôt « P-A-X », parce que « paix mes
agneaux »,
un peu comme au cours de beaucoup de célébrations, on dit « la paix soit avec vous », donc pour moi, c'était « paix à mes agneaux », si vous voulez. Puis d'un coup, j'ai découvert que c'était le verbe « paître », P-A-I-S, évidemment, c'est un mot pas si souvent utilisé en français. Oui. Et il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » ?»« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit de nouveau, « Paix mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné de ce qu'il eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et pourquoi trois fois ? Mais c'est à cause du triple reniement. Et la peine que ressent Pierre à ce moment-là, c'est le pentos, c'est-à-dire la douleur que provoque la faute. Et Jésus donc le sonde en faisant cette triple question, justement pour arriver au pentas, c'est-à-dire au sentiment de peine que Pierre doit ressentir pour ce reniement. Et donc il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Donc il le rétablit totalement dans sa mission de paître les brebis du Christ, malgré la défaillance, est tout à fait au courant de cette défaillance.
Donc on voit avec ces trois textes que Jésus veut vraiment Pierre comme chef de son Église. Donc j'imagine qu'il devait être fort comme Hercule, intelligent comme Einstein, peut-être riche comme le grand Hérode pour avoir pour recevoir une telle institution par le Christ.
Et non, c'est là où justement les béatitudes viennent nous dire que le royaume de Dieu n'est pas un royaume de ce monde. Effectivement, les catégories que tu viens de décrire de force, de puissance, de richesse, de savoir, sont des catégories typiquement des royaumes de ce monde. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et Jésus, à plusieurs reprises, l'a fait comprendre à ses apôtres, hein, en particulier à l'apôtre Paul, qui pouvait se poser des questions, et le Seigneur lui a dit très nettement qu'il fallait s'appuyer non pas sur sa force, mais sur sa faiblesse. Hein. Et Jésus a même permis qu'il y ait, comme pour Pierre, une sorte de faiblesse chez l'apôtre Paul. Et on est au chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens. Pour que l'excellence même de ces révélations, dit saint Paul, ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffléter pour que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il écarte de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans la faiblesse. » Donc voilà ce qu'il faut retenir, hein, la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et saint Paul dira dans l'Épître aux Philippiens « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Donc cette constatation de faiblesse ne veut pas dire qu'il faille gîner dans la faiblesse et ne rien faire. Je peux tout en celui qui me fortifie. Il faut s'appuyer sur les deux. Si je m'appuie seulement sur la faiblesse, je ne vais rien faire. Je vais rester les bras ballants en disant voilà, je suis faible, donc rien ne va. Non, je peux tout en celui qui me fortifie.
Merci, frère Edouard.
À bientôt.
À bientôt.